Chapitre 22. 11 heures venaient de sonner quand le geôlier Blangin entra tout effaré dans la cellule de Jacques de Boiscourant. « Monsieur, votre père est en bas !» D'un bond, le prisonnier fut debout. Dès la veille au soir, un billet de monsieur de Champdoré l'avait prévenu de l'arrivée du marquis de Boiscourant, et tout son temps, depuis, s'était passé à se préparer à cette première entrevue. Que serait-elle? Rien ne pouvait le lui faire prévoir. Aussi s'était-il résolu à se tenir sur la réserve. Et tout en suivant Blangin le long des escaliers et des interminables corridors, ne se préoccupait-il que de se composer un visage impassible et de préparer une phrase strictement respectueuse. Mais avant d'avoir pu prononcer un seul mot, il était dans les bras de son père qui le serrait contre sa poitrine en balbutiant « Jacques, mon pauvre fils, malheureux enfant !» De sa vie, longue et déjà bien éprouvée, le marquis de Boiscourant n'avait été si rudement secoué. Attirant Jacques sous une des fenêtres du parloir et se reculant pour le mieux considérer, il s'étonnait des doutes qui si longtemps l'avaient déchiré. Il lui semblait se revoir à l'âge de Jacques. Il reconnaissait son attitude et son visage, ses traits, l'expression franche et un peu hautaine de sa physionomie, son regard droit et clair. Puis, soudain, passant aux détails, il s'inquiétait de l'amaigrissement extraordinaire de Jacques, de sa pâleur, et il s'effrayait de lui voir aux tempes, entre les boucles de ses cheveux noirs, quelques mèches blanches. « Malheureux !» s'écria-t-il, « comme tu as dû souffrir !»« J'ai cru que je deviendrais fou !» répondit simplement Jacques. Et avec un tremblement dans la voix, « Mais vous, mon père » reprit-il, « comment ne m'avez-vous pas donné signe de vie ? Pourquoi avez-vous tant tardé ?» Le marquis de Boiscourant ne s'attendait que trop à cette question. Mais pouvait-il répondre? Pouvait-il livrer à Jacques le secret lamentable de son abstention? Détournant un peu la tête, « En restant à Paris, lui dit-il, j'espérais te servir plus utilement. » Mais son embarras était trop manifeste pour échapper à Jacques. « Doutiez-vous donc de votre fils, mon père ? » fit-il tristement. « Jamais, s'écria le marquis, jamais je n'en ai douté une minute. Interroge ta mère, elle te dira que c'est la certitude superbe de ton innocence qui m'a empêché de partir avec elle. Quand j'ai su de quoi on t'accusait, j'ai répondu « c'est absurde ». Jacques hochait la tête. « L'accusation était absurde, en effet, prononça-t-il, et cependant, vous voyez où elle m'a conduit. » Deux grosses larmes longtemps contenues jaillirent brûlantes des yeux du marquis de Boiscourant. « Vous m'en voulez, murmura-t-il, Jacques, mon fils !» Il n'est pas d'homme qui, en voyant pleurer son père, ne sentit son cœur se briser. Toutes les résolutions de Jacques s'évanouirent, et serrant entre les siennes les mains du vieux gentilhomme, « Non, non, je ne vous en veux pas, mon père, » interrompit-il, « non !» Et cependant, il n'est pas de mots pour vous exprimer tout ce que votre absence a ajouté de douleur à mes mortelles angoisses. Je me croyais abandonné, renié. Pour la première fois depuis son arrestation, le malheureux trouvait un cœur où versaient toutes les amertumes dont son cœur débordait. Devant sa mère et devant Mademoiselle Denise, l'honneur lui commandait de dissimuler son désespoir. L'incrédulité de Maître Magloire avait empêché toute expansion. Maître Folga, tout en lui étant aussi sympathique que possible, n'était pour lui qu'un inconnu. Tandis qu'en ce moment, devant cet ami, le plus cher et le plus précieux qu'ait jamais un homme, devant son père, qu'avait-il à craindre de se livrer? « Est-il au monde, poursuivait-il, un exemple d'une infortune aussi inouïe? Être innocent et ne pouvoir le démontrer? Connaître le coupable et n'oser le nommer? Ah, je n'avais pas compris, dès le premier jour, toute l'horreur de la situation. J'avais bien été un instant effrayé en reconnaissant l'importance des charges qui s'élevaient contre moi, mais je n'avais pas tardé à me rassurer en me disant que la justice saurait bien démêler la vérité. La justice! C'était mon ami Galpin d'Aveline qui la représentait, et il se souciait bien de la vérité, vraiment, pourvu qu'il prouvât que son coupable était le coupable. Et comment ne l'eût-il pas prouvé? Lisez les pièces de l'instruction, mon père, et vous verrez de quel concours infernal de circonstances je suis victime. Pas une circonstance qui ne m'accuse. Jamais ne s'est ainsi manifestée cette puissance mystérieuse, aveugle et absurde, qui se joue de nous et que nous appelons la fatalité. » Presque inquiet de la violence de son fils, M. de Boiscoran se taisait. Et Jacques continuait. « L'honneur d'abord, la prudence ensuite, ont retenu sur mes lèvres le nom de Madame de Clodieuse. Le jour où je l'ai livrée, Maître Magloire, mon ami, m'a dit que je mentais. Alors, il m'a semblé que tout était perdu. Alors, je n'ai plus aperçu d'autre issue que la cour d'assises, c'est-à-dire le bagne ou l'échafaud. J'ai voulu me tuer. J'étais résolu à me débarrasser d'un fardeau devenu trop lourd pour mes forces. » Mes amis m'ont fait comprendre que je ne m'appartiens pas et que tant qu'il me restera une lueur d'intelligence et une étincelle d'énergie, je n'ai pas le droit de disposer de ma vie. « Malheureux !» s'écria M. de Boiscoran. « Non, vous n'en avez pas le droit. » « Hier, » poursuivait Jacques, « Denise est venue me visiter. Savez-vous ce qu'elle m'offrait ? De fuir. Non pas seule, mais avec elle. Mon père, la tentation a été terrible. » Libre, Denise à moi, que m'importerait l'opinion du monde? Et elle insistait, cette amie incomparable, et tenez, là, à cette place où vous êtes, elle s'est mise à mes genoux. Je suis resté, cependant, je doute du salut, et je reste. Il s'attendrissait, il s'affaissa sur le banc grossier du parloir, cachant son visage entre ses mains, sans doute pour cacher ses larmes. Jusqu'à ce que, tout à coup, pris d'un de ses accès de rage, comme il en avait eu trop depuis son emprisonnement, « Mais qu'ai-je fait ? » s'écria-t-il. « Qu'ai-je fait pour mériter un tel châtiment ?» Le front du marquis de Boiscoran s'était soudainement assombri. « Vous avez pris la femme d'un autre, mon fils, » prononça-t-il. Jacques haussa les épaules. « J'aimais Madame de Clodieuse, » fit-il. « Elle m'aimait. » « L'adultère est un crime, Jacques. »« Un crime, c'est ce que me disait Magloire. Mais vous, mon père, vous, le croyez-vous vraiment ? Alors, c'est un crime qui n'a rien de sinistre, auquel tout engage et encourage, dont on se vante volontiers, dont tout le monde plaisante. La loi, c'est vrai, arme le mari du droit de vie ou de mort. Mais quand on s'adresse à la loi, elle punit les coupables de 6 mois de prison qu'ils font dans une maison de santé. Ah, s'il eût su le malheureux ! Jacques, interrompit M. de Boiscoran, Madame de Clodieuse prétend, à ce que vous avez dit, qu'une de ses filles, la plus jeune, est votre fille. C'est possible. Le marquis de Boiscoran frémit. C'est possible ! S'écria-t-il. Et vous dites cela ainsi, insoucieusement ? Insensé ! Vous n'avez donc jamais songé à ce que serait la douleur du comte de Clodieuse s'il venait à apprendre la vérité et s'il la soupçonnait seulement? Vous ne comprenez donc pas qu'il suffirait d'un soupçon pour empoisonner sa vie, pour perdre probablement la vie de cette fille qui est la vôtre? Vous ne vous êtes donc jamais dit qu'il est de ces doutes atroces dont un homme souffre plus cruellement que vous n'avez souffert de l'erreur dont vous êtes victime? Il s'arrêta. 20 mots de plus, et il livrait peut-être son secret. Se maîtrisant, grâce à un héroïque effort, « Mais je ne suis pas venu pour discuter, » reprit-il. « Je suis venu vous dire que, quoi qu'il arrive, votre père ne vous abandonnera pas, et que, s'il vous faut subir l'opprobre de la cour d'assises, je serai assis à vos côtés. » Si extrême que fût le désordre de l'esprit de Jacques, il avait été frappé du trouble de son père, de l'intensité de son accent et de sa véhémence soudaine. Durant 1/10 seconde, il eut comme une perception vague de la désolante vérité. Mais avant d'être formulé, le soupçon s'évanouit devant cette promesse que lui faisait le marquis de Boiscoran d'affronter à ses côtés l'épouvantable humiliation d'un jugement. Promesse sublime d'abnégation et de piété paternelle, pour qui savait son horreur du scandale, sa réserve hautaine et son respect de soi poussé jusqu'à l'exagération. Aussi, transporté de reconnaissance, « Ah, c'est à moi, mon père, s'écria Jacques, de vous demander pardon, à moi qui avais douté de votre cœur. » De son mieux, M. de Boiscourant se remettait de la secousse. « Oui, je vous aime, mon fils, » prononça-t-il d'une voix grave. « Et cependant, ne me faites pas plus héroïque que je ne le suis réellement. J'espère encore que la cour d'assises nous sera épargnée. » Est-il donc survenu quel incident nouveau ? Sans avoir précisément réussi, les investigations de Maître Folga ont révélé des indices sur lesquels on peut baser de légitimes espérances. Jacques eut un geste de découragement. « Des indices » murmura-t-il. « Attendez, ils sont faibles, j'en conviens, et tels qu'il serait insensé de les produire devant un jury. Mais d'un jour à l'autre, ils peuvent devenir décisifs. Et déjà, ils ont assez de valeur pour vous avoir amené Maître Magloire. Mon Dieu, serais-je donc sauvé ?»« Je veux laisser à Maître Folga, » poursuivit M. de Boiscourant, « la satisfaction de vous apprendre le résultat de ses démarches. Mieux que moi, il vous en expliquera toute la portée. » Et vous n'aurez pas longtemps à attendre, car hier soir, ou plutôt ce matin, quand nous nous sommes séparés, Maître Magloire et lui ont pris rendez-vous pour être à la prison avant 2 heures. Quelques instants plus tard, en effet, un pas rapide retentit dans le corridor, et Frumence Cheminot parut. C'était ce détenu dont Blangin avait fait son aide et que Méchiné avait employé pour la correspondance de Jacques et de Mademoiselle Denise. Frumence Cheminot était un grand et robuste gars de 25 à 26 ans, dont la large bouche et les petits yeux riaient d'une éternelle bonne humeur. Vagabond, sans feu ni lieu, Cheminot avait été propriétaire autrefois. À la mort de son père et de sa mère, et lorsqu'il n'avait que 18 ans, il s'était trouvé possesseur, à 2 portées de fusil de la Tremblade, d'une maison entourée d'un courtil, d'un pré, de quelques arpents d'une bonne terre et d'un marais salant, le tout valant bien 3 000 écus. Malheureusement, l'époque de la conscription arriva. Ainsi que beaucoup de gars du pays, Cheminot, qui avait une foi profonde au sorcier, était allé s'acheter un sortilège, et il lui en avait coûté 50 francs pour obtenir un sort infaillible, c'est-à-dire 3 branches de tamarin cueillies pendant la nuit de Noël et liées par un nombre fatidique de cheveux coupés sur la tête d'un mort. Ayant cousu son sort dans la poche de sa veste, Cheminot s'en était allé au chef-lieu et, plongeant bravement la main dans l'urne, il en avait tiré le numéro 3. Ce résultat l'avait beaucoup étonné. Mais comme il avait horreur du service militaire et que, bâti comme il était bien sûr de n'être pas réformé, il s'était résolu à employer, pour n'être pas soldat, un sortilège d'une efficacité plus prouvée, c'est-à-dire à emprunter de l'argent pour acheter un remplaçant. Propriétaire, il trouva sans trop de difficultés, à la Tremblade, un homme obligeant qui, moyennant une bonne première hypothèque, consentit à lui prêter pour 2 ans 3 500 francs. L'obligation signée et son argent en poche, Cheminot se rendit à Rochefort où les marchands d'hommes pullulaient, malgré la rude concurrence que leur faisait l'État. Et, moyennant une somme de 2 000 francs et quelques menus frais, on lui fournit un remplaçant de première qualité. Ravi de son opération, Cheminot devait partir le lendemain pour la Tremblade, quand sa mauvaise étoile l'amena, dans l'auberge où il soupait, un pays, ancien camarade d'école, matelot à bord d'un navire charbonnier en charge à Charente. Que faire, entre pays, à moins qu'on ne boive ? Ils burent, et le matelot, ayant eu tôt flairé les quelques 1 200 francs qu'avait encore Cheminot, se jura qu'il allait s'amuser et qu'il ne rentrerait pas à bord tant qu'il resterait 1 centime. Ainsi fut fait, et après 15 jours d'une noce à tout casser, le marin était arrêté et conduit en prison, et Cheminot, pour regagner la Tremblade, en était réduit à emprunter 100 sous au conducteur de la voiture. Ces 15 jours devaient décider de son existence. Il y avait perdu le goût du travail et gagné la passion de ces bons cabarets où l'on boit en battant des cartes grasses. Rentré chez lui, il prétendit continuer sa belle vie de Rochefort, et pour ce, il se mit à faire des dettes, à emprunter et à vendre pièce à pièce tout ce qu'il possédait de vendable, depuis ses matelas jusqu'à ses outils. Ce n'était pas le moyen de rembourser les 3 500 francs qu'il devait. Aussi, l'échéance venue, le créancier, qui voyait son gage dépérir, n'y alla pas par 4 chemins. commandement, assignation, jugement, saisie, vente par autorité de justice. En deux temps, Cheminot fut exécuté et se trouva sur le pavé, les bras ballants, ne possédant plus au monde que les méchants habits qu'il avait sur le dos. Il eut aisément trouvé à s'employer, étant bon ouvrier et aimé malgré tout. Mais il avait encore plus l'horreur du travail que l'amour de la boisson. Si le besoin le sanglait par trop, il faisait quelques journées. Mais dès qu'il avait gagné 10 francs, bonsoir, il s'en allait flânant le long des routes, causant avec les rouliers, ou bien il rôdait autour des villages, guettant quelqu'un de ces bons ivrognes qui, plutôt que de boire seul, invite le premier venu. Cheminot n'était pas le premier venu. Il se flattait d'être connu tout le long de la côte, depuis Royan jusqu'à Fouras, et dans une bonne partie du département, plus loin que Rochefort et que Sauveterre. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'on ne lui en voulait pas trop de sa paresse. Les ménagères de campagne le saluaient bien d'un « Que cherches-tu ici, fainéant ?» Mais elles ne lui refusaient guère une écuellée de soupe sur un coin de table et un verre de vin blanc. Sa bonne humeur inaltérable et son obligeance expliquaient cette indulgence. Ce garçon, qui refusait des journées bien payées, était toujours prêt à donner gratis un solide coup de main. Et il était bon à tout, sur terre et sur mer, disait-il. Et en effet, c'est à lui que s'adressait indifféremment le fermier dont la besogne pressait ou le patron de bateau-pêcheur qui avait un de ses hommes malades. Le diable, c'est que cette existence de gueuserie rustique, si elle a ses bons jours, a ses mauvaises séries. Par certaines semaines, on ne rencontre ni ivrogne bon enfant, ni fermières hospitalières. La faim, elle, vient toujours. Alors il faut marauder, déterrer des pommes de terre qu'on fait cuire au coin d'un bois, ou secouer les arbres des vergers. Et si, en plein champ, on ne trouve ni fruits ni pommes de terre, diable, on force les clôtures ou on escalade les murs. Relativement, Cheminot était un honnête garçon et incapable de voler une pièce d'argent. Mais des légumes, des volailles, des fruits, voilà comment, deux fois déjà, il avait été arrêté et condamné à quelques jours de prison, et à chaque fois, il avait juré ses grands dieux qu'on ne l'y reprendrait plus et qu'il allait se mettre à l'ouvrage. Et cependant, on l'y avait repris. Ce pauvre diable avait raconté ses infortunes à Jacques. Et Jacques, qui lui devait d'avoir pu, étant au secret, recevoir des nouvelles de Mademoiselle Denise, l'avait prise en affection. Aussi, le voyant arriver, respectueusement, son bonnet à la main, « Qu'est-ce, Cheminot ? » lui demanda-t-il. « Monsieur, répond le vagabond, Monsieur Blangin vous fait savoir que messieurs vos avocats viennent de monter à votre chambre. » Une dernière fois, le marquis de Boiscoran embrassa son fils. « Ne les fais pas attendre, lui dit-il, va et bon courage. »